France Musique. Musicopolis. De Venise à Bologne, voyage de Charles de Brosse en Italie. Nous avons commencé il y a quelques jours un voyage en Italie avec Charles de Brosse, ce jeune Dijonnais parti visiter la péninsule avec quelques amis à la recherche de manuscrits de Salluste, l'historien romain. Charles de Brosse a fait sa carrière dans le droit et tard dans sa vie, il est devenu président du Parlement de Bourgogne, très haut poste de magistrat, ce qui fait qu'on le connaît souvent sous le nom de président de Brosse. Parti de Dijon en mai 1739, il fait de nombreuses étapes qui le mènent au mois d'août à Venise. C'est là que nous le retrouvons avec sa petite troupe. Dans un premier temps, la ville de Venise n'a pas étonné Charles de Brosse outre mesure. Quelques jours après son arrivée, il écrit à un ami « À vous dire vrai, l'abord de cette ville ne me surprit pas autant que je m'y attendais. Cela ne me fit pas un autre effet que la vue d'une place située au bord de la mer et l'entrée par le grand canal fut à mon gré celle de Lyon ou de Paris par la rivière. Mais aussi, quand on y est une fois, qu'on voit sortir de l'eau de tous côtés des palais, des églises, des rues, des villes entières. Enfin, de ne pouvoir faire un pas dans une ville sans avoir le pied dans la mer, c'est une chose à mon gré si surprenante qu'aujourd'hui j'y suis moins fait que le premier jour. Aussi bien qu'avoir cette ville ouverte de tous côtés, sans portes, sans fortifications et sans un seul soldat de garnison, imprenable par mer ainsi que par terre. En un mot, cette ville-ci est si singulière par sa disposition, ses façons, ses manières de vivre à faire crever de rire, la liberté qui y règne et la tranquillité qu'on y goûte, que je n'hésite pas à la regarder comme la seconde ville de l'Europe, et je doute que Rome me fasse revenir de ce sentiment. À Venise, comme dans beaucoup d'endroits de l'Italie, on représente les opéras seulement pendant la période du carnaval. À défaut, si on veut entendre de la musique, on peut toujours aller dans les différents ospedali de la ville, ces fameux orphelinats qui recueillent les enfants abandonnés ou de familles pauvres et qui éduque les filles les plus douées à devenir musiciennes. Charles de Brosse est un grand mélomane, mais pas seulement. Il est aussi très sensible au charme féminin. Et il apprécie d'entendre des concerts entièrement chantés et joués par des musiciennes, le plus souvent cachées derrière des grilles, mais qu'il imagine adorables. Il décrit volontiers leur talent dans les lettres à ses amis. La Zabetta des Incurables est surtout étonnante par l'étendue de sa voix et les coups d'archet qu'elle a dans le gosier. Pour moi, je ne fais aucun doute qu'elle n'ait avalé le violon de Somis. C'est elle qui enlève tous les suffrages, et ce serait vouloir se faire assommer par la populace que d'égaler quelque autre à elle. Mais écoutez mes amis, je crois que personne ne nous entend, et je vous dis à l'oreille que la Margarita des Mendicanti la vaut bien et me plaît davantage. Pour la musique instrumentale à Venise, Charles de Brosse apprécie surtout l'Ospedale della Pietà, celui justement où Vivaldi a enseigné pendant de nombreuses années et où il a formé des générations de musiciennes. Mais la plus grande violoniste à son goût n'est pas à la Pietà, selon lui, c'est l'Anna Maria des Ospitalettes. « J'ai été assez heureux, écrit-il, pour entendre cette dernière, qui est si fantasque qu'à peine joue-t-elle une fois en un an. » Thank you. Le 30 août 1739, Charles de Brosse quitte Venise et ses douces gondoles. Toujours avec sa petite troupe d'amis, il fait une étape à Padoue. Là, il faut s'arrêter pour écouter jouer le violoniste et compositeur Giuseppe Tartini. Selon de Brosse, ce dernier passe communément pour le premier violon de l'Italie. De Brosse précise d'ailleurs « C'est tout ce que j'ai ouï de mieux pour l'extrême netteté des sons, dont on ne perd pas le plus petit, et pour la parfaite justesse. » Si Charles de Brosse est enthousiaste sur la netteté des sons et sur la justesse de l'exécution de Tartini, il apporte néanmoins quelques précisions sur sa manière de jouer et sur sa personne. « Son jeu, écrit-il, est dans le genre de celui de Leclerc et n'a que peu de brillant. La justesse du toucher est son fort. À tous autres égards, l'Anna Maria des Hospitalettes de Venise l'emporte sur lui. Mais aussi, il n'a pas son pareil pour le bon esprit. » Ce garçon, qui n'était pas fait pour ce métier-là et qui s'y est vu réduit après avoir été abandonné par ses parents, est poli, complaisant, sans orgueil et sans fantaisie. Charles de Brosse fait encore un commentaire sur Tartini qui vaut d'être cité. Tartini, dit-il, résonne comme un ange et sans partialité sur les différents mérites des musiques françaises et italiennes. Oui, c'est que la grande affaire musicale depuis longtemps et encore en ce milieu de XVIIIe siècle, c'est de comparer les particularités musicales françaises et italiennes, et de se mettre bien sûr dans un camp ou dans l'autre. Il s'en écrit des volumes entiers, volontiers polémiques, et qui débouchent sur de véritables querelles où s'affrontent à coups de pamphlets virulents les tenants de l'une et les tenants de l'autre. D'où la mention de Charles de Brosse à propos de Tartini, qui veut par là prouver qu'on peut rester calme sur ce sujet, raisonner comme un ange et non comme un diable. Au cours de son séjour à Padoue, Charles de Brosse entend aussi l'abbé Vandini, violoncelliste ami de Tartini, dont il trouve le jeu excellentissime. Puis, écrit le voyageur, le 1er septembre, nous partîmes en poste, fort satisfaits d'abord de revoir des arbres et des champs, dont la vue est, au vrai, fort préférable à l'éternelle uniformité de la mer. Après Venise et Padoue, la petite troupe de voyageurs, dont Charles de Brosse relate les différentes étapes, se rend à Bologne, après un court arrêt à Ferrare, qu'on trouve plutôt déserte. Bologne, écrit de Brosse, est pleine de belles églises et de beaux bâtiments particuliers. Elle est toute bâtie comme Padoue, à portiques, sous lesquels les gens de pied vont à couvert. Ce sont de larges et longues rues, bordées des deux côtés de portiques voûtés, d'un bel exhaussement, soutenu à perte de vue par des colonnes de toutes sortes d'ordres et par des pilastres carrés. L'ensemble de cette uniformité forme, à mon gré, le plus bel effet que l'on puisse se figurer, d'autant plus que ces piliers soutiennent communément de fort belles maisons, toutes bâties en briques, suivant l'usage du pays. À Bologne, Charles de Brosse peut entendre ce qu'il n'a trouvé ni à Gênes, ni à Milan, ni à Venise, ni à Ferrare, de l'opéra. La particularité de l'opéra à Bologne, c'est qu'il ne se trouve pas dans la ville même. Et si l'on en croit Charles de Brosse, une espèce de snobisme veut que, puisqu'il faut faire 4 lieues pour arriver dans le village où se tient le théâtre, le public bolognais s'y rende 3 fois par semaine et bien à l'heure de surcroît. Comme c'est le cas alors en Italie, la majeure partie de la soirée est occupée par un opéra seria. Autrement dit, une pièce avec des personnages nobles de l'Antiquité ou du Moyen-Âge et où alternent des récitatifs fort longs qui font avancer l'action, et des airs, parfois fort longs également, où les héros expriment leurs sentiments. Thank you. Charles de Brosse se régale à l'opéra de Bologne. Pourtant, écrit-il, ce n'est pas qu'il y ait ni chœur, ni danse, ni poème supportable, ni acteur. Mais la musique italienne a un tel charme qu'elle ne laisse rien à désirer dans le monde quand on l'entend. Surtout, il y a un bouffon et une bouffonne qui jouent une farce dans les entr'actes, d'un naturel et d'une expression comique qui ne se peuvent ni payer ni imaginer. Il n'est pas vrai qu'on puisse mourir de rire, car à coup sûr, j'en serais mort, malgré la douleur que je ressentais de ce que l'épanouissement de ma rate m'empêchait de sentir autant que je l'aurais voulu la musique céleste de cette farce. J'ai acheté la partition originale que je veux porter en France. Si ce qui se déroule sur la scène est à mourir de rire, selon Charles de Brosse, il y a aussi de quoi voir dans la salle. Les dames, raconte-t-il, se mettent fort à l'aise, causent, ou pour mieux dire, crient pendant la pièce, d'une loge à celle qui est vis-à-vis, se lèvent en pied, battent des mains, en criant « Bravo, bravo !» Pour les hommes, ils sont plus modérés. Quand un acte est fini et qu'il leur a plu, ils se contentent de hurler jusqu'à ce qu'on le recommence. Après quoi, sur le minuit, quand l'opéra est fini, on s'en retourne chez soi. À moins que l'on aime mieux souper ici, avant le retour, dans quelques petits réduits. Le duetto final de la Serva Padrona, la servante maîtresse de Pergolèse, avec Patrizia Bicire, soprano, Donato Di Stefano, basse, et la petite bande dirigée par Sigisfal Koeken. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Max Dosolme pour les recherches et le site, Philippe Petit pour la réalisation et Julien Bourdet pour le mixage.
À réécouter sur francemusique.fr.